Vous connaissez tous la signification du pouce levé ou du pouce baissé, la vie ou la mort. À l'époque des Romains, lors de combats de gladiateurs dans les arènes, le vainqueur, avant la mise à mort, regardait toujours le gouverneur sur l'estrade. C'est lui qui avait tout pouvoir. Et celui-ci, par un simple geste, décidait du sort du vaincu. Parfois c'était la vie, souvent c'était la mort. Avec Dieu, il en est tout autrement. Il a toujours le pouce levé pour moi. Il m'accorde la vie. Nous venons de passer Noël, où ce message « Jésus, lumière du monde » vient d'être prêché sur la planète entière. Jésus a totalement changé la donne de notre destinée. Jésus, porteur d'espérance. Vous voyez qu'on est en plein dans le thème qui nous a occupés tout au long de cette année. Être porteur d'espérance. Jésus a vaincu la mort, et la mort est comme une ombre qui passe sur nous, mais elle ne nous atteindra jamais. David déjà nous parle magnifiquement de cette manière prophétique de ce bon berger que nous avons en Dieu et qui se manifeste dans toute sa plénitude en Christ. Ce n'est pas pour rien que le psaume 23 est celui, je pense, sur lequel on a le plus prêché, qui est le plus lu au monde et que nous connaissons pratiquement par cœur. Parce que ce psaume vient vraiment comme un baume pour nous accompagner dans les temps difficiles, dans les temps de souffrance. Je vous en cite quelques extraits. Et c'est vrai que c'est beau simplement de les entendre. Ça fait du bien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et David termine par ces paroles. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu a toujours le pouce levé pour moi. Je vous invite à lire un passage dans l'épître de Tite, les 4 premiers versets. Soyez bien attentifs, parce que c'est assez surprenant ce que Paul dit à Tite. Et c'est ce qui m'a entraîné dans la réflexion qui va suivre. De l'apport de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. J'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Au verset 1, il nous est dit « J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis. » à la foi et à la connaissance de la vérité, qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. De penser que Dieu a choisi de m'aimer pour que je vive, mais c'est tout simplement fabuleux. Dieu, avant ma naissance, bien avant ma naissance plutôt, j'étais connu de Dieu. Lorsque Dieu appelle Jérémie à parler en son nom, il lui dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. » Au chapitre 13, 48 des Actes, il est écrit que les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alors vous me direz, mais en fait, à quoi ça sert de prêcher si de toute façon les jeux sont faits d'avance ? C'est une question qu'on peut se poser, légitime. Paul nous en donne deux raisons. La première, c'est d'amener les gens à la connaissance de la vérité. Et la seconde, qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le fait simplement de connaître quelque chose peut tout changer dans ma façon d'appréhender la vie. Un exemple tout bête, lorsque je roule, si tout à coup devant moi se dresse un écriteau qui m'avertit d'un danger, le fait de le savoir, eh bien, ça va m'empêcher de tomber dans un trou ou de rentrer dans le mur. À partir du moment que je connais, je deviens responsable de mes décisions et de mes choix. La connaissance, elle m'offre des possibilités nouvelles qui vont contribuer à orienter ma vie d'une manière intelligente. La connaissance par l'enseignement, elle est là pour nous ouvrir les yeux. Et ces jours, nous lisons à la maison le psaume 119, et je suis frappé de tout ce que David, le nombre de fois qu'il mentionne cette importance de la parole, des préceptes, des lois, toutes les choses qui auraient tendance plutôt à nous hérisser, parce qu'on voit ça comme des interdictions. Et lui, il les voit, mais au contraire, comme des moyens de pouvoir vivre pleinement en Dieu. Par exemple, au verset 100 de ce psaume 119, il dit « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets, j'écarte mes pas de tout mauvais chemin afin de me conformer à ta parole. » Je m'écarte de tous les mauvais chemins afin de me conformer à ta parole. Et on voit que ces préceptes, ces guides, ces lois sont là pour nous orienter, pour nous aider. Les passages sont nombreux dans la Bible qui nous parlent de l'importance de transmettre les valeurs en lesquelles nous croyons et ne sont-ce pas là les dernières recommandations faites par le Christ à ses disciples et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. En fait, c'est ce mandat que nous perpétuons en nous réunissant chaque dimanche en Église. Nous recevons chaque fois que nous nous réunissons un enseignement et nous le transmettons aussi à nos enfants, à nos jeunes, par des prises en charge adaptées. Pour ma part, j'ai eu un privilège dont je mesure toute l'importance d'avoir eu des parents qui m'ont aidé, dès mon plus jeune âge, à découvrir ce cadeau qui m'a été fait. Il fallait que je parvienne à la connaissance pour apprécier mon privilège. Alors là, un texte qui souligne cet aspect-là. Il dit ceci, « Aucun livre de recettes de cuisine n'a jamais nourri celui qui ne se met pas à la tâche pour cuisiner. » Alors c'est tout à fait ça. La connaissance, elle est très importante, elle est primordiale. Mais la connaissance sans mise en pratique, eh ben, elle ne sert pas à grand-chose, elle ne va pas nous nourrir. L'espérance, c'est la deuxième raison fondamentale qui justifie de continuer de prêcher la parole. L'auteur du livre aux Hébreux, chapitre 6, verset 18, nous encourage à espérer. Je lis. « Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. » Il y a deux mots clés puissants dans ce texte. Le terme, tout d'abord, d'irrévocable. Irrévocable, c'est un terme fréquemment employé au niveau juridique qui fait force de loi. On ne peut pas revenir sur une décision qui est prise. Dieu s'engage d'une manière définitive dans les promesses qu'il nous adresse. Le second, c'est celui de l'ancre. L'ancre nous assure que le bateau est bien stabilisé, ne va pas bouger. En ce dernier dimanche de l'année, tout nous pousse à la reconnaissance d'avoir un Dieu qui prend soin de nous. La reconnaissance était dans le thème du dernier journal que vous avez tous eu en main et que vous avez distribué, un quart d'heure pour l'essentiel qu'on a reçu, c'était juste avant le lundi du jeûne. Et j'y ai trouvé des articles très intéressants. J'ai appris, par exemple, qu'une étude a été menée en 2003 par deux chercheurs pour démontrer les effets bénéfiques qu'entraîne la gratitude. D'après leurs recherches, les personnes qui tiennent un journal de gratitude sont plus heureuses, moins dépressives, dorment mieux et entretiennent des meilleures relations sociales. L'étude montre également que les personnes qui tiennent un tel journal pendant 10 semaines, rapportait une augmentation de 25% de diminution, d'augmentation, de bonheur, une diminution des symptômes physiques et une amélioration de qualité de sommeil. Lors du week-end du jeûne, avec toute notre famille, nous étions dans un camp de vacances à quelque part en France, près de Valence. J'étais encore tout habité par ce que je viens de vous dire sur la reconnaissance. Alors, un soir, pendant le repas, après une explication sur ce qui habitait mon esprit, j'ai interpellé ma famille et je leur ai proposé que nous fassions un tour de table et que chacun exprime un ou deux sujets de reconnaissance. Et j'ai vraiment été surpris comme ils sont rentrés dans le jeu, même en commençant par les plus petits, et de sortir une ou deux pensées qu'ils avaient de sujets de reconnaissance. Ça a été l'occasion vraiment d'un échange fructifiant, vivifiant. La reconnaissance, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel en nous. Nous sommes plus enclins à nous porter vers la négativité. La reconnaissance, comme le dit le journal, et comme je vous ai cité là pour les livres de recettes de cuisine, c'est un apprentissage comme l'apprentissage d'une langue étrangère. On peut s'entraîner à percevoir davantage les belles choses qui nous entourent. Et c'est vrai que c'est un entraînement qui est stimulant et profitable. Grâce à ce pouce levé, j'entre dans la grâce du Père qui veut que je puisse dorénavant vivre dans la paix. Dieu m'a choisi. Et je ne suis pas pris dans une globalité, mais dans un choix individuel. Dieu m'aime, qu'il soit béni et loué.